Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, c'est un virus qu'une équipe française a identifié en 1983. Chaque année, les malades sont de plus en plus nombreux. Les derniers chiffres datent du 21 novembre 2006 et nous proviennent de l'ONU. Il touche 39 millions et demi de personnes. Cette maladie, vous l'aurez sans doute reconnue, c'est le virus du sida, le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, HIV en anglais pour Human Immunodeficiency Virus. Pour en parler avec nous, Marc Gentilini. Marc Gentilini, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie au cœur de l'Institut de France. Vous êtes professeur émérite des maladies infectieuses et tropicales, donc professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes membre actif de l'Académie nationale de médecine où vous présidez une commission depuis 1990 sur le sida, il me semble.
Oui.
Et puis, vous avez quand même effectué de grandes fonctions. Vous étiez président de la Croix-Rouge pendant plus de 7 ans. Également président de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida, qui a été certainement une tâche qui vous a marqué. En tout cas, avec vous, nous allons pouvoir parler en détail de ce fameux virus qui a été identifié une première fois en 81, après plus en détail
non,
en 1983.
Non, pas en 81. Pas en 81, justement, c'est la maladie qui a été dépistée. On s'est aperçu qu'il existait une maladie que personne ne connaissait. Mais on ne savait pas du tout qu'elle était due à un virus, on l'imaginait. Mais l'identification comme maladie virale de cette affection date de 1983.
Alors nous allons pouvoir en parler en détail. Nous allons scinder notre émission en 3 parties. Déjà faire un point sur la découverte de ce virus. Là vous venez de nous en dire quelques petits mots, nous allons pouvoir en parler plus en détail. Nous allons faire aussi une cartographie, même si le mot est malheureux, des foyers où se développe actuellement le virus du sida. Et puis nous arriverons dans une 3e partie au traitement, à la prévention. Est-ce que la prévention joue-t-elle encore beaucoup dans le fait d'éviter ce virus, ou est-ce que au contraire la prévention n'est plus utile? Est-ce que un vaccin contre le virus du sida va arriver bientôt? Voilà, ça va être la 3e partie sur la prévention, le traitement. Mais tout d'abord, parlons un peu histoire. En 1981, donc, c'est la maladie qui est identifiée.
Oui, c'est une information parue dans la presse médicale internationale qui révèle que des homosexuels étaient atteints d'une maladie pulmonaire qu'on appelle la pneumocystose et que ces hommes présentait un syndrome aigu, grave, et que beaucoup mouraient rapidement. En fait, c'est la découverte de l'utilisation inhabituelle d'un médicament très particulier utilisé contre l'agent de cette pneumonie qui a fait que les observateurs, parce qu'il y avait des observatoires de qualité aux États-Unis d'Amérique, se sont dit, il se passe quelque chose. Pourquoi utilise-t-on ce médicament de façon aussi importante? Il se passe quelque chose. Il faut qu'on étudie ça de près. Et on s'est aperçu que c'était pour traiter ces pneumopathies très spécifiques d'un groupe d'hommes. Alors, progressivement, les publications se sont multipliées. On s'est aperçu très vite qu'il y avait des groupes à risque, comme on le disait à l'époque.
Alors, les groupes à risque,
Ces groupes à risque étaient... Les homosexuels, d'abord hommes. Ensuite, c'était des héroïnomanes. Et puis, c'était des hémophiles transfusés. Et puis, il y a eu finalement aussi les Haïtiens qui ont été accusés d'être des gens à risque. Et si bien qu'on a dit, bon, ce sont les 4 H. Et ces 4 H ont marqué l'épidémie au début, voilà, ont limité. Mais c'est
ça restait
vraiment
des foyers
dommage.
Très marginaux.
Oui, c'était des groupes qui étaient ciblés, discriminés, accusés déjà. Et je regrette toujours que, si grave que soit cette demande, c'est vraiment dommage que les premiers cas de sida, de syndrome d'immunodéficience acquise, aient été dépistés chez des hommes homosexuels ou chez des héroïnomanes, parce que s'ils avaient été détecté chez des femmes ou chez des enfants, le monde entier aurait compati. Mais là, au contraire, il y a une espèce de phénomène de rejet de ces malades qui, au fond, avaient couru un risque. Il y avait toujours quelqu'un pour dire « Oh, c'est un peu... C'est, ils récoltent la monnaie de leur pièce. » C'est... Voilà. C'est...
Une maladie, en fait, qui tout de suite était véhiculée comme quelque chose de négatif.
De négatif, très nettement. Et même dans nos hôpitaux en 1981, 82, 83, alors qu'on ne savait pas du tout comment la maladie se transmettait vraiment. On ne savait pas. On pensait que c'était un virus, on pensait même que c'était un rétrovirus, ce qui était tout à fait inhabituel chez l'homme. Le rétrovirus créait une pathologie chez l'animal. Un peu chez l'homme, mais très peu. Et la transmission elle-même, par le sang, par le sexe, était ignorée encore. Elle était, on la soupçonnait, ce virus, on le soupçonnait de se transmettre de cette façon-là. Mais il faut attendre février 83 pour que le ganglion qui a été prélevé chez un malade qui était hospitalisé dans mon service à la Pitié-Salpêtrière à Paris, soit en accord avec l'équipe de Luc Montagnier, de Jean-Claude Sherman, soit... porter ce ganglion, porter à l'Institut Pasteur, et d'un commun accord, on a dit, on va rechercher le virus dans le ganglion et non plus dans le sang. Et c'est cette décision qui a été finalement à l'origine de la découverte, de l'isolement par l'équipe de Montagnier et de même Barré-Sinoussi de Sherman, du virus responsable de la maladie.
Donc en 1983, c'est une équipe française qui identifie...
C'est une équipe française, or ça a été disputé. Vous savez que les Américains ont dit « Ouais, c'est nous ah, ». Ben, il y a eu vraiment un débat dans lequel la France a été bien aidée par les autorités politiques françaises qui ont appuyé les chercheurs français.
Mais alors, il existe le VIH1, mais également le VIH2. Alors, quelles sont les différences entre ces deux virus ?
Elles sont importantes. Moi, je connais des malades qui sont atteints de VIH2 et qui ne sont pas soignés actuellement, qui ne se portent pas trop mal. Mais enfin, ce premier virus isolé porte le nom de VIH1. Et puis il y en a un deuxième qui a été dépisté au Portugal en particulier, et à Paris, confirmé, c'est le VIH2. Il venait de la côte occidentale d'Afrique, de Guinée-Bissau, etc. Et c'est un virus beaucoup moins agressif que le VIH1. Alors on peut avoir des survies et prolongées, même sans traitement, avec le VIH2.
Mais alors, le traitement actuellement, il y a pour
le traitement, tout dépend des manifestations cliniques. S'il y a des manifestations cliniques, s'il y a une sidération des éléments de défense de l'organisme, alors il faut traiter. Mais ça n'a pas du tout le même impact et la même diffusion dans le monde. Ce sont des foyers relativement limités pour le VIH2, mais le grand virus du sida, c'est le VIH1.
Alors, une fois infecté par le virus, une fois que notre organisme est infecté par le virus, quelles vont être les cellules touchées dans notre organisme ?
C'est dramatique, mais ce sont les cellules de défense de l'organisme. C'est celles, justement, qui sont faites pour se porter à l'avant contre les envahisseurs, que sont ces virus, ces agresseurs. Et ces agresseurs sont plus forts que les éléments de défense de l'organisme. Ils tuent ces lymphocytes. C'est la chute des T4.
Les fameux T4 que l'on regarde quand on fait une prise de sang.
Cet indicateur qui est fondamental pour suivre le niveau de l'immunité chez les malades. On regarde leur chiffre de T4 par millimètre cube.
Mais alors, le virus...
Et puis on regarde aussi maintenant, mais ça ne s'est pas généralisé parce que les appareils sont onéreux et parce que les techniques sont plus délicates, et le personnel doit être très performant. On regarde aussi la charge en virus de chaque organisme. Donc, à la fois le nombre des défenseurs restants et d'autre part, en quelque sorte, le chiffre des agresseurs.
Alors, ça se passe en plusieurs étapes. Hein. Déjà, on est infecté par ce virus. Il va y avoir plusieurs étapes où notre organisme va se défendre et puis une oui, autre
très souvent,
séquence.
Il est rapidement débordé, vous savez. Si il faut se souvenir de l'état du sida, c'est-à-dire de ce syndrome confirmé, au début de la maladie. Bon, on dit le virus agresse. Le virus entraîne bientôt la présence d'anticorps. Ces anticorps qui ne sont pas seulement des anticorps protecteurs, hélas, qui ne sont pas des anticorps témoins seulement, qui sont des anticorps qui sont directement liés au degré d'agressivité des envahisseurs. Mais ceci entraîne la séropositivité. Alors on dit « il est séropositif ». Il est séropositif. Autrefois, et même au début de la maladie, on disait, bon, les séropositifs, c'est pas plus mal, ils vont avoir acquis une immunité et ils vont pouvoir se protéger. Il y a même des gens qui pensaient que sur les 30%, sur les 70%, 100% de séropositifs, prenons un capital de séropositifs, un chiffre, 100%, eh bien, il n'y avait pas plus de 30% qui entreraient dans la maladie. Les autres y échapperaient. Serait protégé en quelque sorte par ces anticorps induits. Or, il n'en est pas du tout question. Et non traité, la maladie évolue inexorablement vers l'aggravation. De sorte que, on trouve rapidement, parce qu'il n'y a plus de force de défense, les défenses sont débordées, c'est l'exode des lymphocytes restants, les autres sont morts, et il y a des agresseurs autres que le virus lui-même qui trouvent le champ libre. Alors, un toxoplasme, par exemple, un pneumocystis de ces pneumonies que nous évoquions tout à l'heure, d'autres, des champignons, viennent, s'installent et créent ce qu'on appelle des maladies opportunistes. Ce sont des maladies opportunistes. Et au début, la maladie était souvent révélée par l'apparition d'une maladie opportuniste, révélatrice. On voyait des toxoplasmoses comme on n'en rencontrait pas autrefois. Autrefois, la toxoplasmose, c'était une maladie redoutée chez la femme enceinte, ou bien chez l'adolescent qui faisait une toxoplasmose qui guérissait. La femme enceinte pouvait transmettre la toxoplasmose à son enfant, c'était donc dangereux. Mais là, il s'agissait de toxoplasmose tumorale. On voyait des tumeurs du cerveau dues à des toxoplasmes, et au début, on ne comprenait pas. Et rapidement, on s'est aperçu que c'était lié à cette immunodéficience et que c'était une des manifestations clés de la maladie qui, souvent, à l'époque, tuait le malade. Alors que si on disposait de médicaments à portée de main, on traitait le malade et il sortait de sa toxoplasmose et le guérissait de façon spectaculaire.
Et entre le moment où une personne va être touchée, va recevoir ce virus, va être contaminée par ce virus, et le moment où son organisme va être immunodéprimé, il va se passer combien de temps? 10 ans? 15 ans?
Non. Ça allait beaucoup plus vite. Vous savez, entre 1981, date des premiers cas hospitalisés dans mon service, comme dans un autre service parisien. Nous étions deux ou trois services à ce moment-là à recevoir préférentiellement ces malades. Et 1991, en 10 ans de temps, alors que les 10 années précédentes, je n'avais eu qu'un décès dans mon service, d'un paludisme grave, là, en 10 ans, j'ai vu mourir 2000 jeunes gens atteints par cette affection. 2000 jeunes. C'était très dur. Très dur pour les malades, pour les familles, mais aussi pour les personnels soignants, parce qu'ils étaient désespérés et nous avions besoin d'un soutien psychologique. Certaines des infirmières le réclamaient. C'est une période qui a été oubliée, mais qu'il faudrait rappeler régulièrement parce que ça servirait aussi d'épouvantail, en quelque sorte, aux jeunes homosexuels qui, actuellement, n'ont pas connu cette période. Et parce qu'il y a des antirétroviraux efficaces, ne redoutent plus la maladie et prennent des libertés avec les recommandations qui sont faites, jouent avec la prévention et tombent parfois séropositifs alors qu'ils pensaient échapper à tout ça, ou bien quand ils sont séropositifs, ils pensent qu'avec du traitement, ils vont pouvoir s'en sortir. On verra peut-être tout à l'heure que ça n'est pas toujours, hélas, le cas.
Alors, vous parlez d'homosexuel, mais ce n'est pas une maladie spécialement dédiée aux homosexuels, on
est
bien d'accord.
Ce n'est pas une maladie homosexuelle. Mm-hmm. Le virus n'a pas de sexualité particulière. Il n'est pas homosexuel ou hétérosexuel, le virus. C'est le malade qui peut l'être. Mais quand on regarde l'ensemble des cas du monde, c'est une maladie à transmission sexuelle. Et majoritairement à transmission hétérosexuelle. Ça se transmet avant tout par les rapports sexuels dits normaux, et d'autre part, ça peut être transmis par le sang contaminé. On sait l'ampleur qu'a pris cette question en France en particulier, où pourtant beaucoup de choses ont été faites bien avant d'autres pays, et remarquablement faites. Et ça se transmet aussi par le lait. La mère peut transmettre le virus à son enfant pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement surtout, mais elle peut le transmettre aussi par la lactation lorsqu'elle est contaminée.
Alors je vous propose de marquer une courte pause, Marc Gentilini. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Nous venons de vivre une élection présidentielle qui a passionné les Français et de clore la présidence de Jacques Chirac après 12 années à l'Élysée. Henri Amouroux, fin observateur de l'actualité en tant que journaliste, chroniqueur au Figaro et historien, se livre à l'exercice de narrer les trois fins de règne, ce sont ses propres termes, du général de Gaulle, de François Mitterrand et de Jacques Chirac, où l'on comprend mieux les différences de personnalité de ces trois hommes, mais aussi l'évolution de la société française dans ses rapports à l'institution présidentielle. L'interview s'est faite en quatre temps, d'abord une présentation générale du livre d'Henri Amouroux, « Trois fins de règne », puis une émission consacrée à chacun des trois présidents qui ont passé plus de 10 années à l'Élysée. Criblées d'anecdotes et de commentaires, les interviews d'Henri Amouroux ne manqueront pas de vous surprendre. Ces émissions sont en libre téléchargement sur Canal Academy.
Retour à notre émission Éclairage en compagnie de Marc Gentilini, professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière dans le service des maladies infectieuses. Nous étions donc sur l'histoire, l'historique de cette maladie qui s'appelle le sida. Dans cette seconde partie, si vous le voulez bien, nous allons essayer de voir où se situent ces zones d'épidémie, de pandémie du sida. Avec ces derniers chiffres qui sont parus, 39 millions et demi de personnes touchées qui vivent actuellement avec le sida, est-ce que c'est beaucoup ou pas ?
Je crois que c'est très important de rappeler ces chiffres, qui ne varient guère, quoi qu'on en dise, d'une année à l'autre, mais
quand même en augmentation.
Ils sont en augmentation autant qu'on puisse s'en rendre compte, parce qu'il s'agit avant tout d'estimation. Mais en gros, il faut retenir qu'il y a 40 millions de séropositifs dans le monde et que surtout près de 30 millions ou 25 millions se situent en Afrique subsaharienne. C'est ça le chiffre clé de cette maladie. On dit oui, mais il y a une poussée de séropositivité en Europe de l'Est. Oui, mais la Chine, avec sa masse d'hommes et de femmes, va représenter un capital, entre guillemets, très important dans la séropositivité. Non, actuellement, et depuis le début de la maladie, depuis le début, on ne cesse de le dire, et on a toujours trouvé des arguments pour dire oui, mais il y a aussi les autres. Non, la priorité absolue, les deux tiers se situent en Afrique.
Mais alors, est-ce que cette augmentation de chiffres est due également au fait que l'on peut maintenant prolonger la vie de ces personnes atteintes du virus du sida avec ces traitements
antirétroviraux ? Non, parce que c'est vrai pour l'Europe, bien sûr, mais pour l'Afrique, il n'y a pas accès aux médicaments de façon suffisante pour tout le monde. Donc, ça ne joue pas encore. La mortalité l'emporte sur la survie. Vous savez, c'est dramatique parce que ce sont les gens qui ont quelques moyens qui peuvent s'offrir des plaisirs complémentaires, avoir plusieurs partenaires, etc., et qui sont les premiers marqués par l'infection. Et il y a des pays, en Afrique noire, où les instituteurs disparaissent plus vite qu'on ne les forme. Donc il y a là une atteinte non seulement dans la chair des hommes et des femmes, mais aussi dans l'économie du pays. Et l'éducation des enfants sera marquée par la mortalité due au virus du sida. De même, chez les industriels, leur problème actuellement, c'est de chercher à sauver leur cadre pour que on ne soit pas sans arrêt en train de reformer ou qu'on soit sans personne compétente alors qu'il faut pour acquérir une compétences techniques, parfois 10 ans.
Alors là, vous faites référence effectivement à la Coalition mondiale des entreprises contre le sida. C'est une coalition qui est très récente. Hein. Ils ont eu leur première rencontre, 250 entreprises essentiellement implantées en Afrique, mais également en Amérique du Sud, qui se sont rencontrées une première fois mi-novembre, donc il y a très peu de temps, et qui effectivement expliquaient qu'ils avaient tout intérêt finalement à traiter leurs employés, puisque sinon c'était des employés qui ne revoyaient pas ou très peu une fois atteints de ce virus et qui se retrouvaient à avoir des congés maladie très importants.
Oui, je crois que ça fait partie de leur devoir et ce devoir est aussi leur intérêt. Ils l'ont très bien compris, il n'a pas fallu l'expliquer longtemps.
Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est le rôle des entreprises ? C'est plutôt
oui.
Peut-être le rôle des ONG ou,
non, non,
ou
les
des,
ONG
ou des gouvernements locaux ?
Ah, ben les gouvernements locaux, il fallait voir ce dont ils disposaient pour soigner les malades jusqu'à ces toutes dernières années. C'est tout récemment que brusquement la santé est devenue un élément important dans la politique extérieure des pays. Vous savez, on voit maintenant tous les hommes politiques parler santé. C'est un fait nouveau de 2005-2006. On voit M. Bush, M. Clinton, M. Carter, et j'en passe, et alerter l'opinion publique en disant « Nous voulons nous occuper de votre santé, nous allons faire quelque chose. » Il y a le fonds Bush, il y a le fonds Clinton, il y a le fonds Carter.
Mais il y a un intérêt, l'intérêt humain sans doute, mais les entreprises ne se le cachent pas. C'est surtout pour leurs intérêts économiques.
Je crois qu'il ne faut pas diaboliser les entreprises, pas parce que pour le développement d'un pays, il faut des entreprises. Et d'autre part, il ne faut pas diaboliser les entreprises pharmaceutiques non plus. Parce que s'il n'y a pas les grandes firmes pharmaceutiques, il n'y aura pas de recherche pour mettre au point de nouvelles molécules. Mais c'est un autre problème. Mais en tout cas, pour les entreprises, leur rôle et de s'investir, ça ne représente pas une part considérable. Enfin, c'est un investissement utile, intelligent, humain, donc c'est leur devoir. Et je peux porter témoignage que depuis un certain nombre d'années, avant que ce soit à la mode tout récemment, pour certaines d'entre elles, quelques-unes avaient pris des initiatives. Une grande compagnie de pétrole, que je ne nommerai pas, nous a beaucoup aidés en Afrique pour créer les premiers centres de traitement ambulatoire des malades du sida au Congo, au Gabon, dans d'autres pays. Et ils ont compris très vite que non seulement il fallait soigner les malades, leurs employés, mais également
la famille
de ces
employés. Sens très large.
Donc, dans le coût évaluable de cette prise en charge, il fallait tenir compte de la prise en charge des familles.
Alors, quand vous dites que cette compagnie pétrolière vous a aidé, vous faites référence à l'OPALS, peut-être, non ?
Oui, à travers cette organisation panafricaine de lutte contre le sida, l'OPALS, que j'ai créée en 1988. Vous savez, c'est très simple. J'étais frappé à l'époque, on connaissait la maladie donc depuis 1981, 83, on isole le virus. Et puis, surtout, on s'aperçoit très vite que les malades que nous recevons sont en accord avec nos collègues de Belgique qui recevaient des Aïrois venus de Kinshasa. Nous recevions des malades africains venus de Brazzaville où j'avais des correspondants ou d'anciens élèves et sur des syndromes que localement on nous disait on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une maladie nouvelle, il meurt très vite et voilà. Et il meurt dans un état d'amaigrissement, c'était effrayant, et avec des diarrhées très impressionnantes à l'époque. Alors, nous avons reconnu très vite, à quelques-uns seulement, que la maladie avait un foyer important en Afrique. Et que très vite, en 88, je suis allé voir le maire de Paris de l'époque, et je lui ai expliqué la situation. J'ai demandé une subvention au maire de Paris, c'était Jacques Chirac.
Oui, il que m'a... vous avez obtenu une subvention.
Et j'ai obtenu une subvention, c'est pour ça que je lui suis infiniment reconnaissant. Et dans le combat contre le sida, le président de la République a sans arrêt conduit le débat et forcé l'engagement, pas facile, hein, de ses partenaires du G8 ou de l'Union européenne. Il y avait des ministres de la santé qui étaient vraiment des gens difficiles à vivre, insupportables. Je me souviens d'un ministre, une femme, pardonnez-moi, mais qui était ministre de la santé en Angleterre. C'était effrayant de suffisance et d'insuffisance.
Mais alors, si on revient sur nos chiffres, pour revenir à une chose peut-être plus technique, hein, si on faisait une sociologie de ces chiffres, par exemple en Afrique, est-ce que ce sont des toxicomanes et homosexuels qui sont touchés?
Mais non.
Voilà.
Mais non, vous me posez la question, mais vous connaissez la réponse. En effet, ce sont les malades ordinaires, si je puis dire.
Est-ce que les enfants sont beaucoup plus touchés en Afrique?
Non. Les enfants sont touchés en Afrique, mais il y a une raison précise à cela. Il n'y a pas de spécificité de race, etc. Mmh. Tout le monde est réceptif à ce virus. C'est pas l'Africain n'est pas plus réceptif que d'autres. Malheureusement, les centres de détection dont nous parlions au début de notre entretien concernant le dépistage des malades homosexuels de San Francisco, d'ailleurs, et ces centres très valables qui observent bien, n'existaient pas en Afrique. La maladie s'est développée en Afrique dans l'indifférence totale. Personne ne l'a repérée au début.
Parce qu'on ne mettait pas forcément de nom sur ce mal.
Parce qu'on ne les voyait pas, les gens mouraient, mais la mort est quelque chose qu'on vit, si je puis dire, au quotidien. Donc, il y a eu une prise de conscience tardive lorsque l'épidémie était devenue, hélas, éclatante. Et c'est devenu très vite, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, une pandémie, c'est-à-dire une épidémie internationale. Pour le monde entier, partout le virus existe. Il n'y a pas de zone ou de pays qui soit réfractaire à ce virus. Tout le monde peut être atteint. Mais de façon globale, il s'agit d'une maladie qui est à transmission sexuelle, à transmission hétérosexuelle. Et en Afrique, la transmission dominante, c'est la voie hétérosexuelle.
Alors, on parle beaucoup de l'Afrique, il y a aussi la Chine, où on commence à savoir qu'il y a aussi des foyers très importants, mais là, il me semble que c'est surtout par la vente, en fait, de son sang. C'est-à-dire que les Chinois sont atteints par ce virus en vendant leur sang.
Ils ont
avec les échanges d'aiguilles.
Le sang a été l'objet de scandales divers et il n'y a pas de raison que la Chine y échappe.
Alors on n'a pas vraiment de chiffres, hein, parce que la Chine, ça reste très fermé.
On sait simplement qu'il y a eu des épidémies dramatiques dans certaines régions très localisées de Chine et qui étaient directement en rapport avec le sang. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse croire qu'en Chine, il n'y a pas d'homosexuels. Qu'en Chine, il n'y a pas d'héroïnomanes. Ceux qui pratiquent, les usagers de drogue par voie intraveineuse sont exposés au risque quand le virus est en circulation dans le sang des autres. Et puis, il y a aussi... on a fait une enquête dans certaines régions un peu machistes. En France, en Corse, par exemple, toutes les...
Les Corses seront très heureux de l'entendre.
Il n'y avait pas... Non, mais les Corses sont des amis. Mais les Corses, ils sont comme tout le monde. Et il y a aussi des homosexuels corses. Alors que, quand on regardait les statistiques, il n'y avait pas d'homosexuels. C'était toujours des toxicomanes. Non, mais il faut voir aussi comment la maladie peut être reçue dans le milieu familial ou dans l'environnement sociétal, comme on dit. C'est pas facile à vivre, donc il y a des fuites, des renseignements qui sont incomplets ou inexacts.
Alors vous parlez de la Corse, effectivement, parlons un peu de la France. Qu'est-ce qu'on observe? Quelles sont les grandes tendances? Un rajeunissement des patients, des malades. Quelles sont les grandes tendances?
Les tendances, c'est que ce qui n'était pas politiquement correct de dire, on commence à devoir le dire maintenant. Il y a, premièrement, du côté des nationaux, les homosexuels jeunes qui n'ont pas connu la période spectaculaire, dramatiquement spectaculaire du sida en 81 et au cours des années suivantes, jusqu'à l'apparition des antirétroviraux en 1994, ceux-là prennent des risques. Et il faut cibler l'action de prévention sur ces groupes qui sont déraisonnables actuellement. Mais enfin, il ne s'agit pas de faire leur procès, il s'agit de les aider à se protéger et à ramasser un peu les efforts de prévention sur ces groupes qui sont à risque. Et puis deuxièmement, il y a incontestablement les migrants. C'était pas de bon ton de le dire alors que on le sait depuis des années. Moi, je ne suis pas d'accord.
On peut très facilement glisser sur quelque chose de très
politiquement incorrect. Voilà. Bon, et l'exploitation que certains auraient pu faire de ce constat a été à l'origine du déni. Mais c'est pas bien parce que médicalement, il faut dire les choses et il faut expliquer pourquoi. Alors, l'immigration clandestine, l'arrivée de femmes en nombre dans des foyers d'Africains à Paris, dans la région parisienne, dans la région PACA, etc., non contrôlées. Elles n'ont pas elles ne sont pas, on ne leur propose pas celles-là puisqu'on ne les connaît pas suffisamment. Donc c'est un vrai problème. Et 50% des nouveaux cas sont dus à au moins 50% à cette fraction de population.
Alors justement, quelques chiffres peut-être, donc des chiffres qui nous viennent donc de l'ONU. Concernant la France, on estime qu'il y a à peu près 6700 personnes qui, en 2005, ont découvert leur séropositivité. 6700, c'est toujours trop. Est-ce que ça reste stable ou
c'est
pas
important pour nous, parce que ce sont directement nos malades. Mais quand on compare cela à ce qui se passe dans le restant du monde, je souhaite que la prise de conscience et l'accompagnement dû à ces patients de notre territoire ne nous amène pas à nous bloquer sur nos frontières. Il faut qu'il y ait il y a un devoir de solidarité. Je disais 60% des malades des séropositifs du monde se situent en Afrique. Bon, gardons cette image d'un espèce de couloir de la mort entre la République centrafricaine au nord, autour de Bangui,
oui,
et la République sudafricaine au sud, autour du Cap. Et là, verticalement, il y a une espèce de couloir de la mort de séropositifs. Les gens sont parqués dans ce secteur. Nous regardons ce qui se passe, nous savons ce qui se passe, et un peu comme en d'autres temps, nous ne faisons pas grand-chose, en tout cas pas suffisamment.
Alors, pour continuer sur les chiffres et pour aller dans le sens de votre discours, vous disiez qu'effectivement, ce n'était pas le fait d'homosexuel ou de toxicomane. Et effectivement, les derniers chiffres montrent que 51% des cas de sida sont dus à des rapports hétérosexuels, 27% des cas à des rapports homosexuels, 2% des cas à l'usage de drogue. Donc finalement, 2%, ça reste très très peu, mais quand même 20% restant où la contamination reste inconnue. Mais effectivement, c'est tout à fait ce que vous disiez.
Oui, mais la prostitution féminine, de masse en quelque sorte, dans nos foyers à Paris, dans la région parisienne, en Île-de-France, et la prostitution masculine sont à l'origine, lorsqu'elles ne sont pas, elles ne bénéficient pas de protection, sont à l'origine de la diffusion du virus. C'est sûr. Ça n'est plus le sang qui est à l'origine de la diffusion du virus. Et les usagers de drogue prennent le plus souvent de drogue intraveineuse.
Oui.
Il faut que ça passe dans le sang. C'est pas, je veux pas défendre le hashish, mais c'est pas à lui qu'on peut mettre en accusation pour ça. On doit le mettre en accusation pour d'autres raisons. Mais c'est un autre débat. Mais là, attention. Mais le gros de la troupe, des gens exposés, ce sont les hétérosexuels maintenant qui ont des rapports avec des femmes séropositives. des femmes séropositives.
Et alors, sur le plan du département, et après nous ferons notre petite pause, sur le plan des départements, le département le plus touché, c'est la Guyane, avec près de 900 diagnostics pour 1 million d'habitants. Et puis, juste derrière, ça reste Paris, avec alors un chiffre moins important, mais c'est quand même la deuxième position, avec 336 découvertes par 336 cas de personnes par million d'habitants. Ça, comment vous expliquez qu'en Guyane, et puis après donc le trio tête, si je puis dire, même si l'expression est malheureuse, c'est la Guadeloupe, la Martinique, et donc la Guyane en première position, comment on explique
que ce soit les c'est tragique ce constat, mais c'est la vérité, et la cause est la même. C'est les mouvements de population non contrôlés qui sont à l'origine de cette flambée. Et vous savez quelle est la situation de la Guyane. Quand on voit les responsables politiques du département, de la région, ils disent tous qu'ils sont affolés par l'impossibilité de contrôler l'immigration venant du Suriname ou venant du Brésil. Et c'est un vrai problème. On peut faire semblant de ne pas le comprendre ou bien dire que ce n'est pas politiquement correct de parler comme ça, mais c'est une réalité. Et il va bien falloir que des décisions soient prises. Ne serait-ce que pour porter secours à ces clandestins malheureux qui sont atteints et qui peuvent être des agents véhiculant le virus. Et dans la région parisienne, il y a incontestablement, à côté de certains comportements irréfléchis, irraisonnés, déraisonnables de jeunes qui n'ont pas eu les conseils ou qui ne veulent pas les suivre, il y a une population qui est particulièrement exposée, c'est celle des migrants, et vers laquelle il faut aller au secours. Parce qu'il ne s'agit pas de les montrer du doigt, de dire c'est eux qui apportent. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui est atteint majoritairement, donc où doivent aller les secours en premier, c'est là.
Alors on marque une seconde courte pause, Marc Gentilini, on se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission où là nous allons parler traitement et prévention. A tout de suite.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est Un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Suite et fin de notre émission Éclairage en compagnie de Marc Gentilini avec qui nous faisons le point sur ce virus du sida, VIH. Dans cette troisième partie, nous allons peut-être mettre une note d'espoir. Ce sont les traitements. Est-ce qu'un vaccin va pouvoir sortir des laboratoires d'ici quelques années? On aura l'occasion d'en parler dans cette dernière partie. Parlons peut-être des antirétroviraux. Qu'est-ce que c'est que les antirétroviraux? À quelle date ils apparaissent sur le marché, Marc Gentilini?
Oh, ça fait 1994. Et c'est vraiment un tournant dans la maladie. Car les malades avant mouraient, on les secourait en traitant les maladies opportunistes. Par exemple, la tuberculose, qui est une maladie opportuniste grave, fréquente, sévère chez ces patients. Eh bien, la guérison de la tuberculose entraîner une amélioration spectaculaire de l'état général et une survie de plusieurs mois, parfois de quelques années, mais tôt ou tard, les patients mouraient. À partir de l'arrivée des antirétroviraux, avec quelques bégaiements au début autour de l'AZT qui était efficace mais insuffisant, surtout la multithérapie, bithérapie, puis bientôt trithérapie, et parfois davantage, cette stratégie thérapeutique a révolutionné le pronostic de ces malades et de la maladie. Et on a vu vraiment des patients qui étaient des agonisants, mourants, parfois même en soins palliatifs, ressuscités littéralement, et se relever, remarcher, fait des miracles avec les antirétroviraux. Il faut quand même qu'on dise que cette affection qui a 25 ans d'âge, un quart de siècle d'existence, je dis 25 ans d'âge et 25 millions de morts, c'est important de le rappeler.
Oui.
En 25 ans, 25 millions de morts.
J'avais 28 millions, mais effectivement, 25 ou 28, ça reste beaucoup trop.
Et c'est plus facile à mémoriser, chiffre, mais c'est déjà suffisant comme ça. Et cette maladie a été changée complètement avec l'arrivée de ces antirétroviraux. Alors maintenant, on passe de technique améliorée en technique améliorée, c'est-à-dire que la difficulté à suivre le traitement au début, maintenant, ne peut plus être avancée comme un argument pour s'échapper de la thérapeutique, avec un comprimé par jour ou quelques éléments chaque jour, on s'en sort. Ça n'a plus rien de comparable avec ce qu'était le poids, la gêne des prises répétées au début.
Alors, c'est à préciser, même si les gens qui nous écoutent le savent certainement, c'est que c'est un traitement qui prolonge la vie, mais qui ne guérit pas. On ne guérit pas avec la thérapie.
Vous savez, l'insuline ne guérit pas du diabète. Hein. Les diabétiques insulino-dépendants restent accrochés à leur seringue et à leur insuline toute leur vie, mais ils vivent normalement. Et aujourd'hui, on sait que la survie d'un séropositif, d'un malade du sida, avec les antirétroviraux, si tout se passe bien, s'il suit bien son traitement, s'il n'y a pas apparition de résistance du virus aux antirétroviraux...
Ce qui peut arriver.
Ce qui peut arriver, eh bien, leur survie est équivalente à celle d'un sujet normal. Donc c'est quand même important. Et on disait avant, oui, mais les gens, quand ils apprennent leur séropositivité et la gravité de leur maladie, renoncent à leur profession, vendent leurs biens, le transmettent à leur descendance ou à leur ascendance. Et puis, maintenant, on s'est aperçu pendant un certain temps que la mort programmée n'arrivait pas avec les antirétroviraux et que même on se sentait suffisamment fort pour reprendre une activité professionnelle. Donc, la réinsertion professionnelle ou le maintien de l'insertion professionnelle sont des éléments fondamentaux pour la qualité de la survie, bien sûr.
Oui, c'est après, c'est l'aspect, on va dire, psychologique qui joue également.
Oui, mais il faut savoir, il faut que les malades sachent que le fait d'être traité ne fait pas d'eux des malades, il fait des hommes et des femmes guéris potentiellement.
Guéris potentiellement.
Oui, je veux dire que tout se passe comme s'il n'y avait plus de virus. Il y a toujours le virus, mais ça n'est plus du tout la même histoire. Bien sûr, il faut continuer à se protéger. Tout
Alors,
dépend aussi
voilà.
de la charge virale.
On va pouvoir parler peut-être prévention avant d'être contaminé par ce virus. La prévention reste importante. Pour autant, on a l'impression que les effets de la prévention sont moindres. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que la prévention est toujours utile ?
La prévention est plus que jamais la priorité.
Alors, par prévention, il y a l'information, il y a...
Il y a tout. Il y a le préservatif, il y a le discours sur la nécessité du dépistage, le comportement quand on est séropositif, pour ne pas transmettre à d'autres. C'est tout ça. C'est donc très important. Mais le débat a été le suivant. Au début, il n'y avait à proposer aux populations les plus proches que la prévention. Et beaucoup de gens qui maintenant ont tourné leur veste disaient « Mais c'est de la folie que de présenter, de proposer des antirétroviraux pour les Africains. » Je me souviens du congrès
de...
Pour le coup. Et puis on disait « Ah, mais les Africains, ils vont pas se soumettre régulièrement à la prise des médicaments, ils vont jamais accepter de prendre des médicaments tous les jours. » La rigueur qui est en place en Afrique autour des centres qui distribuent correctement et contrôlent les distributions est tout à fait remarquable. Et c'est une attitude qu'il faut bannir. Maintenant, il ne faut pas compter là-dessus. Les malades à qui on propose un médicament en Afrique comme ailleurs le suivent très correctement. Et en décembre 1997, quand nous sommes allés au congrès sur le sida à Abidjan, le président de la République a fait un discours avec Bernard Kouchner, qui était à l'époque c'était l'alternance, enfin, ou la cohabitation plutôt, la cohabitation, et il était ministre de la Santé. J'ai accompagné ces deux personnalités et nous avons mis au point avec le président de la République une déclaration qui disait qu'il fallait que les médicaments soit accessible aux populations les plus meurtries par l'affection.
C'est-à-dire, accessible
on disait, mais
le
les
coup.
Médicaments oui. sont au nord et les malades sont majoritairement au sud. Eh bien, il fallait qu'il y ait une solidarité. Et c'est ce discours qui a tout changé, parce qu'à partir de ce moment-là, les hommes politiques ont accepté, et c'est pour ça qu'on a créé tout récemment le Fonds mondial contre le sida, la malaria, le paludisme, et la tuberculose. Mais ce fonds contre le sida, qu'on a un peu masqué par la lutte contre le paludisme pour ne déplaire à personne, la tuberculose
pour
étant...
Pour ne déplaire à personne.
Oh oui, parce qu'on disait oui, mais l'OMS disait au début, dans les premières années, mais aux responsables politiques africains, disait, mais messieurs, ne vous laissez pas emporter par les nouvelles qui viennent des États-Unis ou d'Europe, le sida, ce n'est pas une maladie prioritaire en Afrique, c'est oui, jusqu'en 90 à peu près, on a entendu ce discours. Et il a fallu attendre la déclaration de Dakar des chefs d'État africains, 1994, pour que le sida soit reconnu comme étant officiellement une maladie prioritaire. Mais on disait à ses responsables politiques... Vous savez, les priorités chez vous, c'est le paludisme, c'est la tuberculose, c'est la rougeole et ses complications, la méningite cérébrospinale, etc. En fait, il y avait tout ça, mais il y avait en plus l'émergence de ce nouveau virus, qui était le virus du sida, et qui était majoritairement et massivement implanté en Afrique. Donc il y a eu un retard dans la réaction. Il y a eu un
retard que l'on paye maintenant ?
Ah, je crois. Je crois que si les choses avaient été mieux faites, il y avait un chercheur qui était un homme de qualité, qui s'appelait Jonathan Mann, à l'époque, qui avait dénoncé cet état, ce retard que prenait l'Organisation mondiale de la santé, et dans l'alerte à donner au monde entier. Et malheureusement, il a quitté l'OMS et il est mort quelque temps plus tard d'un accident d'avion. Mais depuis, parce que l'OMS n'est pas en mesure de vaincre cette maladie, on a créé ONU-SIDA, en mobilisant différents éléments de l'ONU pour qu'il y ait plus de moyens mis à la disposition de la lutte contre le sida.
Alors, entre 1997, année où il y a ce fameux discours à Abidjan, et le moment où les médicaments vont être plus accessibles, les traitements en trithérapie vont être plus accessibles aux Africains, ça va être en 2001, où les médicaments vont être beaucoup moins chers.
Alors, il y a eu un très beau combat.
Il se passe quand même pas mal d'années entre 1997
oui,
et 2001.
Oui, mais vous savez, la France a eu une attitude remarquable. Tous les malades atteints par le virus en France ont accès à un traitement antirétroviral depuis le début. J'ai connu tous les ministres de la Santé, quelle que soit la sensibilité politique. L'exemple de la France est vraiment à transmettre au monde entier. Il n'y a pas d'autre nation, à ma connaissance, où il y ait cette possibilité d'avoir accès aux antirétroviraux de tous les malades sur le sol français. Alors, on cite toujours, il y a toujours quelques clandestins qu'on dit ne pouvant pas accéder. Moi, j'ai eu des clandestins, j'ai eu des gens qui étaient en dehors de la protection sociale. On s'est toujours arrangé pour que ces hommes et ces femmes bénéficient d'un traitement.
Et c'est en 2001 que les prix, les coûts, en tout cas, vont baisser de manière très très importante et qui va faire qu'on va pouvoir en
Mais
tout cas...
Mais ça, il faut rendre hommage aux ONG.
Oui.
Parce que les organisations non gouvernementales, Médecins Sans Frontières et d'autres, ont mené un combat très efficace pour amener les firmes à baisser leurs prix. Alors, ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on souhaiterait. Mais il y a eu incontestablement une baisse qui a permis la mise à disposition auprès des gouvernements des molécules efficaces.
Alors, une autre partie de la prévention, c'est tout simplement l'utilisation du préservatif. Alors, ce qui est assez... quand on fait une comparaison entre, par exemple, la France et l'Italie, on se rend compte que les Français utilisent beaucoup moins le préservatif que les Italiens, alors que les Italiens sont beaucoup moins nombreux que les Français. Il y a comme une culture encore qui n'est pas entrée, comme une habitude qui n'est pas encore entrée dans les mœurs.
Je ne sais pas s'il y a une grande différence de culture entre les Italiens et les Français. Je connais les deux, je les trouve très proches. C'est vrai qu'en France, le préservatif a été un peu regardé de travers, si je puis dire, au début. Et que, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même déployé des campagnes très efficaces et qu'il y a eu des centres de dépistage anonymes et gratuits qui ont été mis à la disposition des gens pour faire la prévention. Tout ça fait partie de la prévention. Et je crois que ce pays a vraiment consenti des efforts très importants et exemplaires.
Alors, le ministre de la Santé, là, à l'occasion du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, souhaite mettre à disposition des préservatifs à 20 centimes. Donc, il y a aussi une notion...
Alors, ceux qui nous font croire que c'est encore trop cher, il ne faut pas exagérer.
Mais voilà,
parce que quand
notion,
je vois les dépenses
on y voit une notion
de
d'argent.
Certains jeunes sur... à côté... Non, 20 centimes, c'est quand même... C'est bien, c'est... On ne peut pas critiquer ça. On peut dire, bon, mettre tout gratuit, bien sûr, mais écoutez, il y a aussi d'autres priorités. Mm-hmm. Il n'y a pas que le
Donc,
sida.
Donc, il y a une partie, comment dire, il y a une volonté du gouvernement de mettre à disposition, tous les moyens possibles pour éviter au mieux d'éviter donc une contamination. Après, il en va de chaque personne de prendre ses responsabilités et... De savoir ce que l'on veut faire.
Oui, donc, mais il y a des gens qui ne savent pas prendre leurs responsabilités. Et il y a des gens qui ne savent pas très bien quoi faire. Alors, il faut les aider quand même. Et il faut les amener à se convaincre que des gens plus âgés qu'eux peuvent avoir raison quand on les conseille.
Alors, pour terminer sur une note très positive, c'est l'Agence nationale de recherche sur le sida qui a fait appel très récemment à des volontaires pour tester un vaccin préventif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Marc Gentilini ? Est-ce que c'est un vaccin synonyme d'espoir ? Est-ce qu'on pourrait se vacciner contre le virus ?
J'ai entendu ce matin sur une autre radio que la vôtre, Jean-François Delfrécy, qui est le patron de l'Agence nationale de recherche contre le sida, faire des déclarations très pertinentes et de grande qualité là-dessus, et rappeler que la France a une attitude, je crois là encore exemplaire, c'est-à-dire que les volontaires qu'elle recherche ne sont pas des volontaires que nous allons payer, ce sont des volontaires bénévoles. C'est le bénévolat qui est recherché, et ce sont des hommes et des femmes citoyens.
Mais alors sur ce vaccin, est-ce que...
Sur ce vaccin, on en est encore très loin.
Oui.
Ça
Mais
fait
pour
10
que
ans,
l'on passe à une étape, à l'étape de l'essai sur des humains, on est quand même à un stade évolué quand même de la recherche.
Non, pas encore. Ne laissez pas les espoirs...
C'est à long terme.
C'est pas encore pour demain. Il faut des années, mais on travaille. Et je crois que le choix qu'a fait la NRS sous l'impulsion de Jean-François Delfrécy est excellent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le paquet mis sur la recherche vaccinale. Parce que c'est ce qui coûtera moins cher pour les populations les plus pauvres, parce que c'est ce qui sera le moins coercitif pour le traitement, on pourra une vaccination, c'est quand même beaucoup plus facile qu'une prise quotidienne de médicaments. Et puis, je pense que ce sera à la longue mieux toléré, car n'oublions pas que les médicaments, pour efficaces qu'ils soient, n'en ont pas moins des effets pervers. C'est-à-dire qu'il y a des effets sur le morphotype. Il y a une répartition des graisses qui est changée avec certaines molécules. Et tout ça fait qu'on est obligé de corriger, d'avertir, de réparer. Donc c'est actuellement la prévention et la recherche dans la direction d'un vaccin préventif sont les deux priorités, étant entendu que maintenant, l'accès aux soins constitue le meilleur appel au dépistage, puisque quand on peut dire aux gens « si vous êtes positif », vous pourrez être soigné, alors tout change. Alors qu'avant, on ne pouvait dire que si vous êtes positif, il faut retourner chez vous et prendre vos dispositions. Maintenant, ça, c'est autre chose.
Pour terminer sur ce fameux vaccin, la NRS parlait de 2010, mais d'un vaccin qui serait pour retarder l'évolution de la maladie. Donc on serait encore dans cette... le traitement de trithérapie. En fait, on ne serait pas encore dans un vaccin qui empêcherait d'être contaminé par le virus.
C'est un vaccin préventif qu'on recherche, qui ne sera peut-être pas efficace à 100%, sûrement pas même. Mais il y a aussi des vaccins chez les sujets atteints déjà par le virus, qui pourraient atténuer le développement, freiner la maladie, ou même peut-être en couper l'évolution définitivement. Mais pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est une substance qui aurait un effet protecteur. Alors, il y a plusieurs hypothèses possibles, et c'est aux chercheurs à essayer de s'en sortir. Et il faut leur souhaiter bonne chance, et la chance des chercheurs, c'est la chance des malades.
Eh bien, c'est sur ces derniers mots que nous nous quittons. Merci Marc Gentiligny de nous avoir apporté votre éclairage sur ce sujet, de nous avoir donné votre point de vue et puis d'avoir rétabli aussi un peu la vérité sur des idées que l'on pourrait se faire, des idées toutes faites sur ce fameux virus du sida. Merci donc d'être venu nous voir et puis j'espère à très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.
Merci beaucoup.